Du journalisme de propagande anglais à pourquoi Ben Laden bandait.
De Donald Trump est candidat à... Non, sans déconner, il est vraiment candidat.
Toute l'actualité.
Ou presque.
Dans Carrément Méchant.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 12e numéro de Carrément Méchant. Nous sommes le mercredi 24 juin, salut Émilie.
Bonjour Yann, comment vas-tu aujourd'hui?
Eh bien écoute,
c'est un numéro matinal
exactement de Carrément Méchant. Il faut aussi le dire, je suis en direct de la ville lumière Paris.
Oui, et bien moi je suis toujours à Vienne, hein. Et nous sommes tous les deux carrément en pyjama.
Carrément en capitale aussi d'ailleurs.
Absolument.
C'est un numéro très très important, présidentiel même.
Oui, alors ça sera plutôt de ton côté. Moi, je vais commencer avec des considérations peut-être un petit peu moins élevées. Disons ça comme ça.
Mais allons-y.
Et je vous emmène tout de suite. Alors, non pas... je sais même pas dans quel pays ce serait, mais allons-y. Au Pakistan, dans lequel on a fait en 2011 une découverte peut-être un peu dérangeante, mais finalement pas tant que ça. Je vous explique tout de suite. Vous y avez peut-être déjà réfléchi. Mais
oui.
Les terroristes sont, après tout, des êtres humains. Ils ont une famille, ils ont des passions, ils ont des rêves. Bref, ils sont un peu comme nous.
Oui.
Et être un peu comme nous aujourd'hui, cela veut aussi dire qu'ils ont un fichier porno sur leur ordinateur.
Un seul fichier?
Oui, enfin, c'est un fichier avec plusieurs fichiers dedans.
Un dossier?
Un dossier, oui.
D'accord. Non, parce qu'un seul fichier, je me dis, au bout d'un moment, ça devient répétitif quand même. Enfin,
petite leçon de vocabulaire informatique pour moi.
Exactement.
Vous le rappelle, il est tôt. Hein.
Oui.
Et donc, la semaine passée nous a rappelé l'existence du dossier porno, peut-être le plus étrange de l'histoire, et je vous parle évidemment de celui de Oussama Ben Laden.
Oui, qu'est-ce qu'il y avait, dedans? Comment ça se passe?
Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans, justement, là? Et toute la question, on ne le sait pas, et on ne le saura probablement jamais.
Non.
Mais le fait qu'on sache qu'il y en a un, c'est un peu, ça titille un peu la curiosité.
Oui.
Donc, lors du raid sur le complexe pakistanais d'Abbottabad, dans lequel Oussama Ben Laden...
Thanks Obama.
Petit point lapsus, je vous remercie.
Ouais.
Donc lequel Osama Ben Laden se cachait. L'équipe d'intervention des SEALs ont saisi une quantité, je cite, plutôt extensive de matériel pornographique.
Alors qu'on le rappelle, c'était plutôt à l'encontre des enseignements religieux.
Oui, plutôt. Et c'est évidemment aussi l'un des points sur lesquels Ben Laden... exhortait ses compagnons en leur disant que le monde occidental était dépravé parce qu'il traitait les corps féminins avec une telle un tel mépris, etc. Alors que monsieur se branlait joyeusement devant des... Enfin, je vous épargne les détails, d'ailleurs on ne les connaît pas.
D'ailleurs, sérieusement, peut-être qu'il le faisait avec une lueur de haine dans les yeux.
C'est possible. Est-ce qu'on veut vraiment le savoir? C'est vraiment la question qui entoure ce thème, c'est que à quel point on veut vraiment connaître.
Savoir, oui.
Voilà, à quel point on veut vraiment savoir.
Et c'est un truc, je vais faire une réduction à Hitlerium parce que ça me plaît et qu'on est à 10h du matin, mais est-ce qu'on aurait voulu savoir, connaître la collection de porn d'Adolf Hitler si c'était possible? Je ne sais pas, honnêtement.
Bon, on a quand même plusieurs photos d'Eva Braun, alors on peut un peu imaginer quel était son genre. Enfin, il était, au moins Hitler, il avait un type, lui, il était
Ariane, bizarrement.
Blonde aux yeux bleus. Hein.
Enfin, il avait tendance à exterminer le reste d'ailleurs.
Il n'y avait pas encore Google à ce moment-là, donc c'était un peu... on n'a pas pu retrouver son historique de recherche.
Il n'y avait pas Google, par contre, il y avait déjà Goebbels, mais c'est autre chose.
c'est pas pareil.
Mais, il passait par Goebbels News pour avoir un peu quelques informations. Et Goebbels Images pour les affiches. Et Goebbels Musique pour... Non, bref, vous avez compris le principe.
Merci. Petit point historique terminé.
Oui.
En parenthèse, pour en revenir à Ben Laden, je trouve dommage qu'ils n'aient pas montré en fait ce moment dans Zero Dark Thirty, si vous l'avez vu, le film qui raconte en fait l'extermination de Osama Ben Laden et qui, dans une deuxième parenthèse, a été partiellement sponsorisé par la CIA parce que la CIA est montrée sous un jour plutôt éclatant et plutôt sexy avec Jessica Chastain d'ailleurs.
C'est un sponsor officiel de la vérité, quoi.
Non, absolument. Bref, moi, j'ai trouvé rigolo d'apprendre qu'ils avaient même fourni des documents confidentiels à l'équipe de tournage pour rendre la chose plus crédible. Bref, toujours est-il qu'on ne parle pas du porno dans Zero Dark Thirty, c'est très dommage.
Oh.
Mais un certain monsieur David Covucci, qui est un rédacteur d'un site internet que vous connaissez peut-être, qui s'appelle brobible.com, qui est selon ce monsieur David Covucci, le site internet de culture populaire masculine un des plus visités aux États-Unis. Et qui, en fait, s'est rappelé que Osama Ben Laden avait un fichier porno, ce qui avait été révélé en 2011, à l'époque, 10 jours après le raid. Et donc, M. David Covucci a écrit au bureau d'information de l'intelligence, l'acronyme c'est ODNI.
D'accord.
Et pour faire une requête, en fait, de publication de ces documents. Et il l'a fait en ces mots. Nous sommes des adultes. On peut gérer ça. On aimerait savoir sur quel genre de porno l'homme le plus recherché au monde se branlait. Est-ce que être constamment menacé de capture crée une stimulation supérieure? J'imagine que ce serait un peu compliqué pour lui de se concentrer. Donc j'imagine qu'il devait regarder des choses vraiment un peu brutales. Je cite « some really nasty shit ». Et donc, monsieur Covucci a envoyé ça au très sérieux bureau d'information de l'intelligence, enfin des services secrets.
Oui.
Et ses espoirs ne sont pas si infondés, il n'est pas si fou que ça, puisqu'en effet, en mai 2015 déjà, donc le mois passé, 103 documents du raid d'Abbottabad avaient été déclassifiés, et donc rendus publics, qui concernaient plusieurs choses. Et ils ont été déclassifiés, en fait, à la suite d'une enquête du reporter Seymour Hersh, qui mettait en cause la version officielle de l'assassinat de Ben Laden, selon laquelle finalement le Pakistan était au courant, etc., etc. Et donc, l'administration américaine, pour démentir cette version des faits, qui disait notamment qu'on n'avait rien, que les documents saisis à Abbottabad étaient faux ou bien avaient été pris ailleurs. Du coup, l'administration a déclassifié ces documents, parmi lesquels on trouve des lettres d'amour de Ben Laden à sa femme, et le contenu de, des livres qu'il lisait. Et donc tout ce rapport a été publié sous le doux nom de la bibliothèque de Ben Laden, en anglais Bin Laden's Bookshelf.
La bibliothèque kaki.
Oui, enfin, bref, ils sont un peu poétiques. Et donc vous apprendrez qu'en passant dans les livres que Ben Laden lisait dans sa petite maison d'Abbottabad, c'était trouve notamment un livre sur Obama, Obama's Wars, un des livres les plus célèbres sur la stratégie militaire d'Obama, un livre sur les Illuminati aussi. On ne sait pas trop ce qu'il foutait là, plusieurs livres de stratégie militaire et des formulaires de recrutement pour djihadistes.
Logique.
Mais le matériel pornographique qui a été donc séquestré pendant cette mission n'a pas été révélé à ce moment-là. Et donc David Covucci a envoyé sa lettre et la CIA lui a répondu très poliment. Il était impossible de publier, enfin de déclassifier ces documents pour deux raisons.
On n'a pas fini de tout regarder.
Voilà. Je vous rappelle juste pour la petite histoire marrante que Osama Ben Laden, j'arrête pas de dire Obama, ça va pas du tout. Ouais. Que Ben Laden était dans sa maison d'Abbottabad pendant plusieurs années avec trois femmes, enfin trois de ses femmes à lui, donc. Mais que quand même, il avait toute sa grosse collection de porno, donc il devait s'ennuyer un peu. Et donc la CIA a expliqué que, premier point, elle ne pouvait pas diffuser le matériel pornographique puisque il faisait partie des fichiers opératoires. Les fichiers opératoires, c'est un concept de service secret qui désigne des fichiers contenant du matériel sensible et qui, du coup, ne peuvent pas être publiés puisqu'ils mettraient en danger certaines opérations ou certaines sources. Alors, on ne comprend pas très bien comment...
Non, on ne comprend pas, non.
Le matériel pornographique de Osama Bin Laden était, d'une quelconque manière... comment dire, intéressant d'un point de vue stratégique, mais on va se rabattre sur le deuxième point que la CIA nous fournit, qui est que la législation interne de la CIA lui interdit de publier du matériel à caractère obscène, et que donc si elle déclassifiait ses documents, elle serait sous le coup d'une enquête judiciaire pour avoir enfreint son propre règlement.
Mais j'aime beaucoup dans la lettre adressée à la CIA ou à Odin, je ne sais plus, concernant justement livrer ces documents, le côté, ça commence par « nous sommes des adultes », ça fait très... j'ai plus de 18 ans.
Oui, non, c'est vraiment ça, non, alors. Non, ce qui est rigolo, c'est que ce monsieur qui a écrit, donc qui a écrit cette lettre, donc il est responsable de ce site internet, brobible.com, vous pouvez aller voir, c'est pas... ce n'est pas un site de stratégie militaire, ce n'est pas du journalisme d'investigation. D'ailleurs, le dernier article que Monsieur Covici a écrit avant de publier en fait un article sur sa requête à la CIA s'appelait, je cite, "Oh hell yeah bros, Charlie Theron is single." Vous avez vu Mad Max, ça peut vous intéresser. Mais bref, tout ça pour dire que ce n'était pas, c'est pas forcément un... Voilà, il ne l'a pas forcément fait avec un intérêt militaro-stratégique. Mais bref, toujours est-il qu'on ne saura jamais ce qu'il se passait dans cette petite maison d'Abbottabad.
Mais je vais te proposer de passer d'un mégalomane à un autre.
Oui, alors oui, très bien. On va d'ailleurs rester aux États-Unis avec toi. On continue dans la section drôle de ce numéro.
Dans la section improbable mais vrai.
Voilà,
Ça y est, c'est fait. L'arrogant milliardaire Donald Trump, patron de The Trump Organization et de Trump Entertainment Resort, propriétaire des immeubles Trump et personnage central du reality show The Apprentice, a déclaré que sa Trump candidature à l'investiture républicaine pour la Trump présidence des États-Unis d'Amérique. La question dans toutes les têtes, évidemment, c'est concernant les idées du bon monsieur. Quel président veut-il être? Comment compte-t-il redresser son beau pays? Selon quel beau principe? Émilie, je sais que ça fait peur, mais il est temps de se plonger dans les déclarations récentes de Donald Trump.
C'est bon, je suis prête.
Donc notamment dans son discours d'annonce de sa candidature, accroche-toi bien. Tout d'abord, quand le Mexique nous envoie des gens, il ne nous envoie pas leurs meilleurs citoyens. Il nous envoie des gens bourrés de problèmes. Il nous amène de la drogue, il nous amène le crime, ce sont des violeurs. Même si certains, je suppose, sont des gens bien. Léger optimisme sur la fin de Donald Trump qui ne catégorise pas tout le monde, mais quasiment tout le monde, de violeurs au Mexique.
On peut lui accorder ça quand même. Il laisse une porte ouverte.
Alors, l'homme a des solutions simples. Hein. À propos de healthcare.gov, le site officiel du dispositif Obamacare, il dit « Ce site a coûté 5 milliards de dollars. J'ai tellement de sites internet de mon côté, j'engage des gens pour ça, ils me font des sites internet, ça ne me coûte que 3 dollars !» Bon, voilà, il sait comment ça marche, il sait évidemment qu'il y a une différence entre faire une page en HTML et tout un site institutionnel pour s'inscrire, à l'assurance santé, c'est une bonne idée. Il dit aussi « Malheureusement, le rêve américain est mort. Mais si je suis élu président, je le ferai revenir plus grand, meilleur et plus fort qu'il n'a jamais été. » Et
l'Amérique... Donald Trump fait se relever les morts.
Voilà, c'est un peu ça. Et l'Amérique redeviendra aussi fantastique qu'auparavant.
C'est aussi un chrétien évangélique ou pas?
Non, il est chrétien, mais je sais plus de quelle sous-église à la con qui sont là-bas aux États-Unis. je respecte vos religions, mais c'est un petit peu compliqué au bout d'un moment. Hein, quand il y a 14 000 chapelles différentes aux États-Unis, je commence à avoir du mal à suivre, moi. Hein, je compte jusqu'à orthodoxe, mais après, ça devient compliqué pour ma pauvre tête.
C'est tout à ton honneur.
Ensuite, non, je peux aussi aller jusqu'à copte, en fait. Ça j'arrive encore à faire la différence. Mais ensuite, je sais même plus ce en quoi les gens croient. C'est-à-dire, pour moi, c'est du cateau bizarre qui est là-bas. Bref. Il a dit aussi que nous avons besoin d'un leader qui a écrit The Art of the Deal. Alors, bon, The Art of the Deal étant son bouquin sur l'art d'être un bon businessman, ça limite les possibilités. Autant dire voter pour moi, hein. À ce compte-là, faut se calmer.
Il a aussi dit... Il accorde un peu d'originalité, quand même.
Oui. Il a aussi dit, je bats la Chine tous les jours. Ce qui, voilà, non, probablement économiquement, mais c'est une phrase qui vaut son pesant de cacahuètes.
Ouais. Oui, il y a moyen de la décliner de façon marrante.
Il est convaincu d'être bien, monsieur Trump, il dit. J'entends dire, Mr. Trump, vous n'êtes pas une bonne personne. Mais en fait, je le suis. Il a vraiment dit ça comme
il
ça.
Il est mignon.
J'ai même pas compris dans la phrase, il a vraiment dit ça comme ça. Toujours à propos du Mexique et de l'immigration, il dit « Je vais construire un grand mur, et personne ne construit les murs mieux que moi, croyez-moi. Et je le construirai pour pas cher. Je vais construire un très très grand mur le long de notre frontière sud, et je ferai payer le Mexique pour ce mur. Faites-moi confiance. »
Ah ouais.
Voilà. Alors, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Premièrement, pourquoi construire un mur pas cher si c'est pour le faire payer par quelqu'un d'autre? Surtout si c'est quelqu'un que t'aimes pas. Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est que cette non-mise en concurrence d'un chantier public? On dirait que Trump cherche à passer par la case scandale sans même avoir été élu président. C'est génial! À propos d'Obama, j'adorerais qu'Obama démissionne et aille jouer au golf. Ce serait une bonne chose. Ok. Et enfin, attention, parce que c'est quand même l'homme de la situation.
Il voudrait presque voter pour lui, juste pour le fun. Ah. Ouais. Non, oui.
C'est malheureusement ça sera pas fun le jour où il sera élu, mais
Non,
il
mais
dit
genre, il
enfin.
pourrait même pas rester 2 jours.
Il
Enfin,
ferait tout péter.
ouais,
Il y a
enfin, je
plusieurs,
sais pas, ouais.
il s'endort sur le bouton nucléaire.
Non,
Enfin bref.
justement.
Il finit par, malheureusement, je serais bien obligé de le révéler à un certain point, mais je dispose d'une méthode pour battre Isis rapidement et efficacement. Une méthode qui débouchera sur une victoire totale. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe un moyen imparable de gagner. Ce sera absolu à 100%. Au minimum, Isis viendra à la table des négociations, mais de fait, ils seront battus très rapidement.
Ah
Voilà.
ouais.
Donc, Donald Trump,
La potion
super-héros.
magique.
La potion magique pour battre Isis.
Alors,
C'est fantastique. Voilà, donc
on
Donald
espère
Trump.
juste qu'il est tombé dedans quand il était petit, ce cher monsieur.
Candidat à l'investiture républicaine, on va quand même espérer, et ça fait mal au cœur de dire ça, mais on va espérer que Jeb Bush fâche mieux. Parce que
C'est une triste phrase à prononcer, ça.
c'est très très triste
C'est
parce que
vraiment triste.
l'investiture de Jeb Bush, elle n'a pas été triste non plus. Mais c'est un gros branquignol aussi. Mais comparé à Donald Trump, très
Mais
franchement,
pas aussi gros.
comparé à la marionnette de Guignol, il y a quand même de la
Oui.
marge. Voilà. Et on va en Angleterre maintenant
On
avec
va
toi,
aller
Émilie.
effectivement en Angleterre, mais on va continuer à parler de personnes qui font des présomptions complètement exemptes de preuves,
De bon sens.
de bon sens également. Et je vais vous parler en fait encore un peu de Edward Snowden.
Oh là
Ce
là.
n'est pas lui qui fait ses présomptions, mais le journal le Sunday Times, qui est un des plus gros titres de la presse anglaise, enfin un des gros titres dominical de la presse anglaise, et qui a fait des vagues dans le monde des médias la semaine passée en publiant un article dans lequel le reporter Tom Harper, je crois qu'il s'appelle, explique que la Russie et la Chine ont eu accès à des documents qu'Edward Snowden avait avec lui.
Ouais.
Alors il ne dit pas comment, où, quand, ou quels documents ils ont pu avoir accès, mais il est sûr qu'ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que des sources anonymes, officiers du gouvernement anglais et au service secret, lui ont dit que c'était comme ça.
Oh, c'est pratique.
Et cet article est un florilège en fait de phrases, enfin justement d'assomptions, qui sont toutes basées sur, selon une source anonyme, un officiel dont on taira le nom, etc., etc. Et donc, alors forcément, on est un petit peu ébahi en lisant cet article. On ne comprend pas très bien, mais ce qui s'est passé, les réactions à cet article ont d'ailleurs été plutôt un peu décevantes. C'est-à-dire qu'énormément de journalistes ont pris cette hypothèse pour vraie et ont fait les gros titres. La BBC l'a repris, énormément de gens ont repris la chose telle quelle, en disant oh, la Russie et la Chine n'ont pu lire ces documents, etc., etc. Et si c'était vrai, ce serait un problème pour Edward Snowden. Puisque sa crédibilité en tant que whistleblower et aussi en tant que spécialiste de cryptographie serait complètement érodée si on ne peut plus faire confiance à Edward Snowden pour avoir caché tous les documents, pour avoir encrypté tous les documents auxquels il avait accès, on est un peu dans la merde.
C'est ce qu'il a dit en parenthèse, hein. C'est que selon
Qui
lui, il a
encore?
beaucoup. Non, que Snowden, ce qu'il dit de Snowden, c'est qu'il a beaucoup de documents sous le coude et qu'il veut pas tous les révéler et
Oui,
que
non, mais
ça
alors
prend
ce
du
qu'il a dit surtout,
temps.
c'est qu'il était absolument certain que les documents qu'il a eus en sa possession et qui ne sont plus en sa possession, ce qui est quelque chose que le Sunday Times apparemment ignorait, sont vraiment à 99% inviolables. Et que selon lui, il est impossible, et pas forcément uniquement de façon technique, mais aussi de façon physique, que des gouvernements étrangers puissent avoir accès à ces documents. Et donc la thèse selon laquelle le naïf, enfin Edward Snowden serait un naïf petit hacker qui se serait fait avoir par les méchants russes et les méchants chinois. Et en fait, tout ce qui est raconté dans cet article, et selon ses sources officielles anonymes, à cause de ces fuites et à cause de ce que les Russes et les Chinois ont pu voir, Edward Snowden a du sang sur les mains. Ça, c'est dans le paragraphe 2 ou 3, je sais plus. Deux paragraphes plus long, le reporter continue. Une source officielle anonyme a cependant dit qu'il n'y avait aucune preuve que quiconque ait été blessé ou ait été mis en danger par ces révélations.
C'est ça qui est très intéressant, c'est que d'une part, tu as, mais c'est super intéressant en fait, d'une part, tu as le renseignement, toutes les opérations de renseignement hyper intrusives, où finalement tu découvres que ça n'a rien profité en termes d'antiterrorisme, et de l'autre côté, tu vois que des révélations comme celle de Snowden, finalement, n'ont mis en danger personne non plus. On vit dans un univers très safe en fait.
Non, mais alors ce qui est rigolo surtout, c'est que comme Enfin, alors, une des personnes qui a le plus réagi à cet article, c'est le journaliste Glenn Greenwald, qui,
oui.
Donc, si vous ne le savez pas, voilà, Citizen Four, qui est un journaliste d'investigation qui a travaillé avec Edward Snowden depuis le début, depuis la publication des documents, mm-hmm. et qui est toujours évidemment très impliqué dans cette histoire. Mm-hmm. Et monsieur Greenwald s'est fait un plaisir d'énumérer dans un post sur son blog The Intercept toutes les erreurs qui étaient dans cet article. Mmh. Et ma partie préférée que je ne peux pas m'empêcher de partager avec vous concerne justement en fait cette histoire. Alors on nous dit au deuxième paragraphe, Edward Snowden a du sang sur les mains, et au quatrième paragraphe, personne n'a été blessé par les révélations qu'Edward Snowden, il n'y a aucune preuve que quiconque ait été mis en danger. Mmh. Et donc Greenwald nous explique que à son avis, du coup, le seul moyen qu'Edward Snowden puisse avoir du sang sur les mains et qu'en même temps personne n'ait été mis en danger par ses révélations, serait qu'il était en train de cuire un steak très saignant chez lui.
Elle est facile.
Quand les documents ont été saisis, non, mais elle est facile. Mais cet article du Sunday Times est un scandale complet. Des autres erreurs concernent le nombre de documents. Selon le Sunday Times, la Russie et la Chine auraient pu avoir accès à 1,7 million de documents qu'Edward Snowden dont Edward Snowden se serait emparé. Un nombre qui n'est prouvé nulle part, et même la NSA elle-même a officiellement établi que le nombre de documents en possession d'Edward Snowden était impossible à connaître. Leur système ne permet pas de compter le nombre de documents que Snowden a volé. Tout au plus, ils peuvent estimer qu'il aurait eu accès à environ 1,7 million de documents.
Bien.
Mais il n'y a aucune preuve. Donc, c'est premier contresens, deuxième contresens, l'histoire du sang sur les mains. On nous apprend aussi que le mari de Glenn Greenwald, qui a été arrêté à l'aéroport d'Heathrow, était en possession de documents sensibles de la part de Snowden après une visite à Moscou. Or, David Miranda n'a jamais été à Moscou et n'a jamais rencontré Edward Snowden. Et comme de par hasard, le paragraphe qui expliquait cette anecdote a disparu de l'édition en ligne du Sunday Times après la publication du post de Glenn Greenwald. Mais sans aucune explication, alors aucune remarque éditoriale. Et donc pour finir, la crédibilité du Sunday Times étant quand même relativement sérieusement mise en cause, comme toute publication mature, le Sunday Times a réagi en lançant une poursuite judiciaire contre Glenn Greenwald. Pourquoi ? Non pas pour diffamation ou pour d'autres choses comme ça, parce que Glenn Greenwald a utilisé une capture d'écran sur son site internet qui montrait une partie de l'article du Sunday Times, lequel est protégé par un paywall.
Bien, malin.
Voilà, alors c'est tout en douceur et en maturité.
On connaît le fair play chez le Sunday Times.
Voilà, et interrogé sur la question de s'il allait retirer l'image en question, Glenn Greenwald a simplement répondu non.
Bah non, mais c'est le droit de citation en même temps. C'est impossible, surtout à un journaliste, d'interdire ça.
Alors, non, c'est fair game d'utiliser une capture d'écran, surtout qu'on peut vraiment voir deux paragraphes et demi.
C'est ça, c'est du fair use, c'est abus de journalistique.
Si vous voulez rigoler un peu, on pourra vous mettre le lien sur le résumé de l'émission. Il y a une interview du reporter du Sunday Times par CNN qui est absolument merveilleuse. Le journaliste de CNN lui demande, mais comment vous savez que... Enfin, en gros, tout votre article est basé sur des sources anonymes. Mais si ce que vous dites est vrai, pourquoi ? Enfin, quel intérêt des sources de rester anonymes ? Pourquoi ? Est-ce que l'Angleterre ne rend pas ça public ? Enfin, si la Russie et la Chine ont eu accès à des informations cruciales, c'est important que le monde entier soit au courant. Et donc, le journaliste du Sunday Times n'arrête pas de dire « je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas et on ne sait pas » pour finir. En avouant en fait ce qui est le cœur du problème de son article, c'est que nous avons seulement publié ce que nous croyons être la position du gouvernement britannique. Et maintenant, dernier point, ce qui rend cette histoire intéressante, cet article a été publié quelques jours seulement après la publication d'un rapport indépendant commissionné par David Cameron sur l'efficacité du système de surveillance et de services secrets anglais. Et ce rapport, écrit par un certain monsieur Anderson, est pas très 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 positif, c'est pas joli joli. Et donc, ce qui a dû certainement se passer, c'est que Le gouvernement anglais s'est dit, bon les gars, on va éviter que ce rapport nous fasse trop de mal et on va vite publier un truc qui montre à quel point le système qu'on a en place est hyper bien et super cool et comment est-ce qu'on a réussi à prouver que des Russes et des Chinois avaient eu accès aux documents de Snowden. Enfin bref, je vous invite à aller voir cette interview, elle est vraiment extrêmement drôle, c'est un scandale journalistique bien sûr, c'est de la propagande...
De la propagande et ou de la manipulation, mais c'est effectivement assez confondant de voir, encore une fois, publier des sources anonymes. Il y a des fois où c'est nécessaire et sans aucun problème. Mais quand c'est le gouvernement britannique qui donne sa version, alors c'est des officiels qui le font passer en off simplement pour raconter quelque chose sur quelqu'un d'autre.
Je veux dire, c'est de la diffamation et ça a été fait. Non, mais... C'est pas la première fois que ça arrive à Snowden et ça se fait régulièrement.
Encore une fois, je peux peut-être me tromper, mais j'ai pas l'impression que le journaliste du Sunday Times n'était pas conscient du fait que c'était une manipulation et que c'était justement.
Il en est très conscient. Lui, il s'était payé un repas dans un bon restaurant de Londres et puis on lui a dit bon bah tu imprimes ça vite fait.
Attends, si c'est juste un bon repas, moi je le fais pas. Hein. Faut me comprendre un peu mieux que ça.
Il y a des standards élevés, Yann.
Exact, je dis ça au gouvernement français comme au gouvernement suisse, faut step up your game, c'est pas assez ça. Bref, écoute, on va aller en Suisse.
Oui, alors on va retourner en Suisse, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été en Suisse avec toi Yann, je suis très contente que tu nous parles de la Suisse aujourd'hui.
On va y aller doublement et on va commencer par un dossier sur la naturalisation en Suisse. Donc en Suisse, comme dans de nombreux pays, un test de connaissances doit être réussi pour obtenir la nationalité lors du processus de naturalisation. Et si 84% des candidats réussissent le test, ce n'est qu'à 64% de bonnes réponses en moyenne, alors même que la note minimum pour avoir réussir le test, c'est 60%, donc ça se joue à un cheveu près. La question se pose, Émilie, est-ce que tu es une bonne Suissesse ? C'est l'heure de vérité !
Ah non ! Tu vas vraiment me faire passer le test.
Évidemment, un petit échantillon
public.
Un petit échantillon des questions posées dans ce questionnaire. Est-ce que tu es prête ?
Je suis prête.
Très bien. Alors, à chaque fois, c'est des questions avec 4 réponses possibles et tu dois choisir la bonne.
C'est pas très gentil de me faire ça.
C'est
exprès. Je vais faire de mon mieux.
Et ça va te forcer à faire des trucs aussi vaches pour les prochains numéros.
Je vais rassembler tout mon helvétisme derrière moi. Mon helvétisme depuis l'Autriche.
Alors, première question. Combien d'habitants y avait-il en Suisse au début de l'année 2014 ? Réponse A, 9,3 millions. Mm-hmm. Réponse B, 6,5 millions. Réponse C, 8,1 millions. Réponse D, 5,9 millions.
Réponse C.
Réponse C est une bonne réponse.
Oui.
Bravo, Émilie. Tu as un point.
Très bien.
Deuxième question. Parmi les propositions suivantes... Laquelle regroupe des rivières qui coulent dans le canton de Berne ? C'est une question qu'on pose aux Suisses, aux gens qui veulent devenir Suisses.
Ah, c'est important.
Réponse A, Rhône, Ar, Reuss, Lima. Réponse B,
Limat.
Réponse B, Saint-Gin, Reuss, Ar, M. Réponse C, M, Kand, Suse, Sim. Réponse D, Ar,
on dirait que t'énumères un alphabet.
In, Rhône.
Exotique. Attends, tu peux répéter le dernier ?
Ar, Rhin, In, Rhône.
Je vais dire la réponse B.
La réponse B, Saint-Gin, Reuss, Ar, M ?
Ouais.
C'est une mauvaise réponse. La bonne réponse était C, M, Kand, Suse, Sim.
Mais il y a l'Ar aussi à Berne, non ? C'est la seule rivière bernoise que je connais. Enfin, que je croyais connaître.
Et ben écoute, la bonne réponse...
C'est le seul, on aurait vraiment dit une suite de syllabes.
M-A-R-U-S-I-N-G.
Le suisse allemand est un langage merveilleux, on vous promet.
Dans quel canton enseigne-t-on officiellement en 3 langues nationales ? C'est des vraies questions du truc de naturalisation, je rappelle.
Je suis prêt.
Berne, Valais, Tessin ou Grison ? Dans quel canton enseigne-t-on officiellement en 3 langues nationales ? Berne, Valais, Tessin, Grison.
Je vais dire Grison parce que c'est les plus bizarres.
Grison est une bonne réponse.
Oui.
Tu as 2
merveilleux. C'est les seuls qui parlent romanche aussi, alors j'imagine que...
2 réponses juste sur 3 questions.
Celle-ci,
normalement, tu devrais l'avoir. De quelle organisation internationale la Suisse est-elle membre ? Réponse A, l'OTAN. Réponse B, l'Union Européenne. Réponse C, l'ISAF. Réponse D, l'OSCE.
L'OSCE.
L'OSCE est une bonne réponse.
Oui.
L'OTAN, évidemment pas, l'UE, évidemment pas, l'ISAF, je ne sais pas ce que c'est,
oui, moi
mais
non
l'OSCE, bien
plus.
sûr.
Whatever that is.
L'OSCE, je veux dire, évidemment.
Dont le siège est à Vienne, en Autriche.
Exact, mais fantastique.
Fantastique.
Cinquième question. Qu'est-ce que le Rochtigraben slash la barrière des Rochtis?
Mais celle-là, elle est facile.
Réponse
bon, elle est facile
1.
Pour les Suisses, en fait, mais pour, j'imagine que pour le reste du monde, elle est quand même hyper bizarre.
Ouais, ouais.
C'est vraiment une question officielle d'un questionnaire officiel et on vous demande qu'est-ce que la barrière de Rushdie. Alors peut-être que vous savez que les Rushdie sont un plat à base de pommes de terre.
Oui.
Mais je ne suis pas sûre que de savoir ça vous aide à comprendre mieux la question.
Pourquoi on en ferait une barrière ?
Voilà.
Réponse A, une région entre le canton de Berne et le canton de Fribourg qui a la même histoire. Réponse B, une vieille recette du Jura bernois avec des pommes de terre.
Ils sont
réponse,
pas très marrants, hein.
Réponse C, la frontière culturelle et linguistique entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Ou réponse D, la frontière religieuse entre les paroisses catholiques et réformées du canton de Berne.
Réponse C.
Bien sûr.
Oui.
4 bonnes réponses sur 5 questions. Tu es sur, tu es sur le bon chemin, Émilie.
Je suis une bonne Suisse.
Dans quel... Alors, attends. C'est une citation. On a fait appel à des forces de travail. Ce sont des hommes qui sont venus. Dans quel contexte l'auteur Max Frisch a-t-il dit cela ? Réponse A. Oui, oui, moi aussi. Réponse A, à l'époque de la haute conjoncture des années 1960.
Donc le mec, il a dit, ce sont des hommes qui sont venus.
On a fait appel à des forces de travail, ce sont des hommes qui sont venus. Dans quel contexte Max Frisch a-t-il
ouais,
dit cela
certes.
Réponse A, à l'époque de la haute conjoncture des années 60. Réponse B, après l'adhésion de la Suisse à l'ONU en 2002. Réponse C, pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que des personnes persécutées voulaient fuir vers la Suisse. Réponse D, à l'époque de la construction du tunnel du Gotthard, en parenthèse, fin du 19e siècle.
Je dirais la Deuxième Guerre mondiale. Non ?
C'était pas vraiment l'attitude suisse, d'ailleurs, mais...
Non, mais non, genre, pour je sais pas. Non,
c'est une mauvaise réponse, c'était à l'époque de la haute conjoncture des années 60.
Ouais, j'ai hésité avec ça.
Voilà.
Bon.
L'auteur Max Frisch. Donc, c'est une mauvaise réponse. Quelle région de Suisse... A-t-elle la plus grande superficie parmi les exemples proposés ? Quelle région de Suisse ? Pas canton, région.
Oui.
Réponse A, Oberland. Réponse B, Jura. Réponse C, Mittelland. Réponse D, les Alpes. Oberland, Jura, Mittelland, Alpes.
Mais juste superficie ?
Superficie. La plus
Mais
grande superficie.
Mais ça veut superficie. Dire qu'est-ce qu'on aplanit le...
Superficie.
Mais dire les Alpes quand même.
Les Alpes est une bonne réponse.
Oui.
Bravo.
Petite musique victorieuse.
Exactement. Pain.
Voilà. Ouais, ça c'est. On fait ce qu'on peut. Hein.
Dans le canton de Berne.
Ah mais il y en a encore.
Bien sûr, il y en a encore 3.
Voilà. Ok.
Dans le canton de Berne, quelle communauté religieuse n'est pas reconnue officiellement ? Réponse A, l'Église chrétienne orthodoxe.
Mm-hmm.
Réponse B, l'Église catholique romaine. Réponse C, l'Église réformée évangélique. En parenthèse protestante. Réponse D, l'église catholique chrétienne. Alors, chrétienne orthodoxe, catholique romaine, protestante ou catholique chrétienne, à Berne, n'est pas reconnue officiellement.
Orthodoxe
est une bonne réponse.
Oui.
Bravo, bravo,
c'est
bravo.
C'est un peu intolérant, c'est bernois quand même.
Tu en es à 2 mauvaises réponses pour l'instant, donc ça se passe bien. Concernant la
je
politique
peux
des transports.
Mon passeport, dis.
Probablement. Concernant la politique des transports, quelle est l'affirmation correcte ? La politique des transports, on pose ces questions-là. La réponse A, la liaison européenne la plus importante traverse la Suisse d'est en ouest. Réponse B, la Suisse veut transférer le transit des marchandises du rail à la route. Réponse C, par la NEAT slash NLFA, la Suisse veut transférer le transit nord-sud des marchandises de la route au trail. Au rail, pardon. J'ai fait trahir un en même temps. Réponse D, à partir de 2015, les touristes qui transitaient par la Suisse doivent payer la vignette autoroutière plus chère que les citoyens suisses.
C.
C est une bonne réponse.
Oui,
effectivement,
absolument.
La Suisse transfère le transit nord-sud sur le rail. Et enfin, dernière...
Qu'est-ce que c'est passionnant quand même, la politique suisse.
Dernière question. Et on, encore une fois,
qu'est-ce
voilà.
Qu'est-ce qu'on s'amuse.
C'est une question qu'on pose histoire de bien dire aux gens voilà ce que c'est la Suisse.
Ouais, genre, vous êtes sûr que vous venez bien là ? C'est hyper chiant.
À combien de semaines de vacances payées au minimum ? À combien de semaines de vacances payées au minimum a droit un employé qui a travaillé pendant 30 ans dans la même entreprise ? Réponse A. Oui, par. La formulation est bizarre. Je
oui,
t'ai dit qu'elle est écrite.
Est nulle, hein.
À combien de semaines de vacances payées au minimum a droit un employé qui a travaillé pendant 30 ans dans la même entreprise? Réponse A, 4 semaines. Réponse B, 5 semaines. Réponse C, 6 semaines. Réponse D, 7 semaines.
Ouais, officiellement, c'est 5. Du coup, j'imagine que s'il a travaillé 30 ans et qu'on nous précise ça, ça doit être plus. Donc 6.
Alors, de manière étonnante, alors déjà, dans les textes de loi, c'est toujours 4 semaines au niveau fédéral. Non. C'est 4 semaines au niveau fédéral.
Mais on a refusé d'avoir 6 semaines de vacances à un certain
moment. On a refusé d'avoir 6 semaines, oui, bien sûr. Ouais. Mais
bien sûr, non, il n'y a pas de bien sûr qui fasse. Non, mais pas bien, la population suisse a refusé d'avoir 6 semaines de vacances.
Moi, j'ai voté pour avoir les 6 semaines, mais non, effectivement, c'est 4 semaines au niveau fédéral. Après, ça change selon les cantons.
Ouais.
Mais le minimum national, c'est 4 semaines de vacances par an. Donc, pour quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans, c'est la même chose. Ah. Voilà, donc tu as 3 mauvaises réponses et 7 justes. Tu as donc 70% de bonnes réponses, ce qui fait que tu peux garder ton passeport.
C'est merveilleux, je pourrais donc rentrer en Suisse.
C'est ça, on ne te refoudra pas.
Que d'émotions, ce merveilleux pays à la politique de transport passionnante.
Ah bah, il faut la repréciser, quoi. C'est,
et
faut
et aux auteurs très célèbres. Alors, je te remercie de...
Oui.
De m'avoir fait participer à ce quiz.
Il fallait vérifier ça avant que tu reviennes au pays.
Pardon ?
Il faut que je vérifie ça avant que tu reviennes au pays. Je veux dire, cette année, tu as visité l'Iran, tu as visité l'Autriche, des pays très dangereux. Il faut s'assurer que tu n'as pas été endoctriné dans quelque chose de moins suisse que ce que tu es censé être et avoir. Tu vois, moi, j'écoute la radio-télévision suisse au moins une fois par jour pour m'assurer de rester un peu suisse.
C'est vrai.
Quand je suis à Paris.
Je prendrai l'hymne national en revanche pour me... Pour me ressusciser.
Voilà une belle initiative.
Absolument.
Et enfin,
pas ça en direct par contre.
On va terminer sur un sujet très très suisse.
Oui.
Parce qu'on va parler un peu des cantons romands. Alors les cantons, qu'est-ce que c'est ?
Les cantons romands qui sont les cantons francophones.
Exactement. Exactement. Et les cantons, c'est l'équivalent suisse d'un département ou d'un Länder. Pour avoir une petite explication transnationale. Donc, ça en devient lassant. Mais on n'en est pas prêt de finir d'entendre parler de l'initiative UDC sur l'immigration de masse datant de février 2014.
Donc le 11 février.
Elle fait encore parler d'elle. Cette fois-ci, il est question de son application. Lors de la procédure de consultation amorcée à Berne, la Conférence des gouvernements de Suisse occidentale, ou CGSO, dont vous venez probablement de découvrir l'existence en même temps que moi, a réclamé plusieurs choses par la voie d'un communiqué de presse publié le 17 juin. Tout d'abord, sur le principe, la CGSO accepterait que Berne préserve, apprécierait que Berne préserve au mieux les relations avec l'Union européenne telles qu'elles étaient lors des accords bilatéraux. Elle parle même de priorité absolue. Bon, ça va être difficile vu que le peuple suisse a délibérément voté un texte allant dans le sens inverse. Plus en pratique, la CGSO voudrait que les besoins spécifiques de chaque canton soient pris en compte lors de la mise en place du texte final.
Mais donc le texte final dont on rappelle qu'il limitait l'immigration et remettait en place un système de quotas.
Effectivement. Là encore, il y a, vu le caractère restrictif de l'initiative validée par le peuple, qu'il y ait une marge de manœuvre paraît vraiment improbable. Pour que ça marche, en fait, la CGSO a une carte magique dans sa manche. Comme l'UDC.
Comme Donald Trump.
Et comme dans
la même chose avec laquelle on va battre ISIS.
Comme l'UDC, ils vont choisir leur propre interprétation du terme immigré. En fait, pour la CGSO, les étudiants étrangers et les travailleurs frontaliers, ceux qui travaillent en Suisse mais résident en France, en Italie, en Autriche, au Liechtenstein ou en Allemagne, ne sont pas des immigrés. Alors que l'initiative de février 2014 dit exactement l'inverse. On est donc dans...
Non mais on vous jure, il y a interprétation.
On est donc pris entre deux jeux du plus con. D'un côté, l'UDC qui a réussi à faire passer une initiative là où il existait un recours légal via l'Union européenne, histoire de faire tomber les bilatérales une année avant les élections fédérales de 2015, et de l'autre, la droite libérale et la gauche sociale-libérale qui vont jouer sur les mots plutôt que de s'afficher clairement à l'encontre de la volonté du peuple, même si ça s'est fait d'un cheveu. Voilà. Il n'y a qu'un seul jeu auquel jouent les jeux romans, et c'est le jeu du plus con. c'est aussi simple que ça.
Ça donne envie de rentrer. Hein.
Ça donne envie de rentrer en Suisse. Et pour le coup, bah voilà, c'était la dernière info que j'avais envie de partager avec vous pour ce deuxième numéro de Carrément Méchant. Merci à vous.
On t'a remercié. T'as parlé de Suisse, on a beaucoup parlé de Suisse finalement, alors qu'on était les deux pas en Suisse.
Mais il nous faut ça, c'est un peu de nostalgie.
Voilà, c'est ça, ça montre que notre attachement à ce merveilleux pays.
De nostalgie ou de hostalgie peut-être, je ne sais pas. Avec un mélange
H.
des deux. Non, avec un O, Hostalgie.
Mais avec Hostalgie un H, c'est un peu hostile.
C'est vrai aussi, hostile. Ça correspond bien.
Bref.
La barrière de hostie. Alors, merci à toi, Émilie, d'avoir prêté ton temps pour cette émission.
Merci à toi, voyons, c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir.
Tu t'es levé à 6h du matin pour ça, quand même?
Pour
l'émission.
Ça m'a pas réussi.
Comme non, mais... Oh, non, arrête, c'était intéressant, oui. Quand même. On te retrouve sur Twitter, @roulet.
Oui, on te retrouve sur Twitter, @inkshd.
Exactement, on retrouve l'émission @méchantRK sur Twitter et sur RadioKawa.com pour les téléchargements, les podcasts et les petits commentaires qui nous font
absolument
plaisir. Voilà,
et
on se retrouve.
On vous retrouvera dans 3 semaines avec des nouvelles informations passionnantes.
Oui. Et un meilleur micro pour ma part, car je ne serai pas en déplacement à Paris.
Et on espère moins de pyjamas et plus d'heures de sommeil.
Exactement.
Voilà. On
Allez.
Fait des bisous.
Bisous et ciao.
Ciao. Sometimes we walk hand in hand by the sea, and we breathe in the cool salty air. You turn to me with a kiss in your eyes, and my heart feels a thrill beyond compare.
Spoken love, I'm aware of the treasure.